Ngamba
Nzambi la Samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
On se retrouve pour la rétrospective de l'actualité de la semaine du 25 octobre au 1er novembre 2020. Vous êtes avec Franck Cazé à la présentation. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Huit personnes détenues dans le cachot de la brigade Gatumba au sud de Bujumbura auraient été tuées par le chef de cette brigade. Selon Pacifique Ninahazwe, coordonnateur de la campagne d'Ondeza, quatre de ces personnes auraient été tuées par balle à bout portant. La police affirme que ces quatre hommes ont été tués par un policier parce qu'ils tentaient de s'échapper. Pacifique Ninahazwe, sceptique, demande à la Commission nationale des droits de l'homme de mener des enquêtes pour connaître les auteurs de ce crime.
Les informations que nous avions reçues disaient qu'il s'agissait de 8 personnes qui étaient détenues au cachot de Gatumba et qui avaient été arrêtées en deux étapes. Les informations qui commencent à être fournies par la police de Gatumba et de Bujumbura Rural dit qu'il s'agirait plutôt de 6 personnes qui avaient été détenues et que 4 ont été tuées tandis que 2 autres ont pu s'enfuir. Ici, il y a un certain nombre de questions à se poser. Selon la version de la police, les 6 personnes venaient de subir un interrogatoire de la part des chefs de poste de Gatumba. Et c'est à la fin de l'interrogatoire, au moment où les détenus étaient ramenés au cachot, que les 6 personnes se seraient ruées sur le chef de poste et qu'elle l'aurait désarmé et aurait tenté de s'enfuir. La première question à se poser ici, c'est d'abord, comment se fait-il que le chef de poste de Gatumba avait décidé de mener un interrogatoire tard dans la nuit aux environs de minuit? Deuxièmement, comment se fait-il qu'il était seul au moment de cet interrogatoire, alors qu'il interrogeait 6 personnes considérées comme de grands bandits et des bandits armés? La troisième question qui se pose ici, c'est comment un policier qui serait aux alentours a pu tirer sur les fugitifs et arriver à tuer 4 des fugitifs sur le coup. Imaginez une seule personne qui tire vers minuit pendant la nuit et qui arrive à tirer sur 4 personnes en train de s'enfuir. C'est pour cette raison que nous demandons qu'il y ait une enquête sérieuse sur ce qui s'est réellement passé. Parce que, selon nos sources confidentielles, les personnes tuées ont été faites coucher en bas du cachot de Gatumba et les balles ont été tirées dans leur tête. Alors, cela aurait pu être vérifié par des familles si les familles avaient été autorisées à avoir accès aux cadavres. Selon les mêmes informations, les personnes tuées seraient originaires de la 3e avenue et de la 2e avenue de Gatumba. Ce sont donc des personnes connues dans l'entourage. Les familles auraient demandé d'avoir accès aux cadavres des leurs, mais cela leur a été refusé. Et d'ailleurs, de manière très curieuse, dans la soirée d'hier, les Imbonerakure de Gatumba ont reçu l'ordre d'aller enterrer rapidement ces cadavres sans la présence des familles, sans même la reconnaissance des cadavres par les familles. Mais qu'est-ce que les autorités burundaises, qu'est-ce que la police de Gatumba avait besoin de cacher? C'est pour cette raison qu'encore une fois nous demandons une enquête crédible. Nous en appelons à la responsabilité de la police burundaise et nous appelons la Commission nationale indépendante des droits de l'homme à mener rapidement une enquête et à clarifier cette situation.
C'est l'indignation totale que soulève le recensement des fonctionnaires de l'État. Syndicalistes, défenseurs des droits de l'homme, opposition, le dégoût est unanime. Pour la coalition CFO Arusha, par exemple, ce que cache ce recensement finira par se savoir. Frédéric Bavouguinumvira est le président de CFO Arusha. Je vous propose de l'écouter.
J'entends ces derniers jours parler des développeurs gotés sur l'ethnie, Bahoutou ont tué les Batoutis ont tué les Bahoutous, comme si nous étions, encore une fois, dans les années 95, 16, 17, 18, on y revient. Alors on peut se poser la question, pourquoi ce genre de question aujourd'hui? Cependant, au niveau de l'accord d'Arusha, il avait été précisé que ce genre d'enquête va être mené auprès des agents de l'État, des élus, des administratifs, donc ça veut dire des gens qui occupent des fonctions politique, pas des agents de la fonction publique. Non, vraiment pas. Ce n'est pas ça le contenu de l'accord d'Arusha. L'accord d'Arusha précise qu'il devra s'agir des personnes qui occupent des fonctions politique. Entendez par là le président de la République, les ministres, les députés, les sénateurs, les gouverneurs de province, les administrateurs, les conseillers communaux, les chefs de zone, les chefs de colline. Ce sont ceux-là qui occupent des postes politiques. Et il faut que l'on vérifie que les quotas, 40-60%, sont absolument respectés. Et ici, je n'oublie pas l'armée et la police où le quota est de 50-50 absolument. Et il faut que le Sénat vérifie que ces chiffres sont respectés. Mais voilà, ici, il ne faut pas que l'on confonde les fonctions politiques et la fonction publique. Voilà ce qu'il faut quand même avoir comme précision. Il faut ici souligner que quand on cherche des éléments du genre, c'est pour qu'on puisse justement discriminer les uns et les autres pour des éléments qu'ils auront eux-mêmes fournis.
Le tribunal de grande instance de Nahangwa a décidé de maintenir en prison Fabien Vanciglianino. Maître Gustave Nyonzima, ancien avocat à la cour, explique que la décision a été rendue ce jeudi après violation du code de procédure pénale. Selon lui, l'ex-député aurait déjà dû être auditionné en chambre de conseil 15 jours après son arrestation, ce qui n'a pas été le cas. Suivez Maître Gustave Nyonzima.
Souvenez-vous qu'il avait été transféré à la prison centrale d'Omhimba en date du 8 octobre 2020. Donc, conformément à l'article 155, alinéa 3 du code de procédure pénale, lorsque un prévenu est mis sous mandat d'arrêt provisoire, il doit être présenté en délai à 15 jours devant la chambre de conseil pour statuer sur sa détention préventive. Et l'honorable Fabien Vanciglianino a été transféré à la prison centrale d'Omhimba en date du 8 octobre 2020. Il devait être présenté devant la chambre de conseil du tribunal de grande instance de Nahangwa en délai à 15 jours, c'est-à-dire le 23 octobre 2020. Mais ça n'a pas été le cas parce que il a dépassé les 15 jours. Il a été présenté au moment où il venait de passer 18 jours, c'est-à-dire qu'il était incarcéré sous un titre périmé. Donc, il y a une violation flagrante de la loi procédurale. La décision qui a été prise au niveau de la chambre de conseil du tribunal de grande instance de Nahangwa est de le maintenir en détention préventive. Et conformément donc aux articles 169 et 170 du code de procédure pénale, il a le droit de faire appel devant la chambre de conseil de la cour d'appel de Nahangwa après avoir reçu la signification de ce qui a été jugé.
Rappelons que l'ex-député Vanciglianino est incarcéré à la prison centrale de Mimba. Il a été arrêté le 2 octobre. Il est accusé de rébellion, atteinte à la sûreté de l'État et dénonciation calomnieuse. Les personnes qui causent du tort à l'État vont être traquées et tous les jugements rendus seront tous exécutés. Il s'agit de certaines des priorités du gouvernement pour l'exercice 2020-2021 présentées par Alain-Guillaume Bougnoni devant le Parlement. Mais le discours du Premier ministre est loin de convaincre. Pour la société civile indépendante, c'est juste un discours purement politique. Il y a crainte que cette poursuite, par exemple, ne concerne que de simples agents, Bonfils Niongere.
Devant le Parlement burundi, le Premier ministre Alain-Guillaume Bougnoni a déclaré que le gouvernement va s'atteler à mettre en exécution les jugements rendus qui ont été déjà définitifs et traquer les officiels qui causent le tort à l'État.
Nous avons un autre projet concernant l'établissement de tous les dossiers de jugement déjà rendus pour qu'ils puissent être exécutés, et surtout en ce qui est de l'action réquisitoire. Parce que certains fonctionnaires induisent le gouvernement dans des erreurs. L'exécution de ces jugements sera également faite pour mettre en exécution la loi qui sanctionne les fonctionnaires qui se comportent mal en faisant payer le gouvernement des indemnités dans des procès.
Pour Maître Janvier Bigirimana, ce discours n'est qu'un discours politique qui n'aura pas certainement d'effet du moment que ces officiers qui causent le tort à l'État ont plus de pouvoir que la justice burundaise.
Et nous pensons que c'est un discours qui ne peut pas être crédible lorsqu'il est prononcé par une personnalité qui est parmi les personnes suspectées. Ce sont de simples agents de l'État qui sont visés. C'est-à-dire que toutes ces personnalités qui ont un certain pouvoir sur la cour est douce, alors que ce sont de simples agents qui sont le plus plus souvent inquiété. Nous pensons que c'est un discours politique qui n'a pas un grand effet parce qu'il n'y a pas une volonté politique. Ce discours, donc, c'est un discours de simple politique et de distraction.
Maître Janvier Bigilimana s'inquiète également que ce discours pourrait avoir des incidences sur des jugements à caractère politique récemment rendus par les cours des tribunaux du Burundi.
Nous observons dernièrement qu'il y a plusieurs personnes qui appartiennent à l'opposition ou à l'ethnie Tutsi qui sont condamnées en cascade par le régime en place, et nous pensons que ce discours pourrait viser toutes ces personnes qui appartiennent à l'opposition politique ou qui sont présumées comme telles. Si tel est le cas, vous comprenez que c'est un discours divisionniste, un discours qui ne rassemble pas, mais plutôt un discours qui sème la zizanie et la désolation en termes de réconciliation du peuple burundais.
Le premier ministre Alain Guillaume Bunyoni était au palais des congrès de Kigobe où il était en train de répondre aux questions des élus du peuple.
Chers enseignants, soyez des modèles pour vos élèves en ce qui est de la prévention de la COVID-19. Vérifiez et aidez les élèves à appliquer les mesures barrières de prévention. Alertez chaque signe suspecté d'atteinte de la COVID-19.
Ceci est un message de la radio Inzamba.
Une maladie inconnue cause la panique au sein de la population des collines Nyakazi et Gasasa dans la commune Mingakayove en province de Rutana. La maladie a déjà attaqué une centaine de personnes depuis le mois d'octobre. L'administration de cette commune affirme que cette maladie est due à l'eau sale utilisée dans les ménages. Les détails dans son reportage d'Emmanuel Ndaïchimiye.
Selon les sources sur place, les symptômes de cette maladie sont une température élevée, douleur abdominale, maux de tête, diarrhée et vomissements intenses. Cette maladie a commencé à se manifester sur les collines Nyakazi et Gasasa, zone Kigugu, en commune Mingakayove de la province Rutana, depuis le début du mois d'octobre. Environ une centaine de personnes ont déjà été atteintes et admises dans les différentes structures sanitaires de cette province. Philippe Cagnoni, administrateur de la commune Mingakayove, confirme ces informations, mais tranquillise. Selon cet administrateur, la maladie est due à la présence des bactéries de type Enterichia coli, présentes dans l'eau de la petite rivière Mouchouaboulé, consommée par les habitants de ces deux collines. Philippe Cagnoni fait savoir que suite à la présence de ces bactéries nocives dans l'eau de la rivière Mouchouaboulé, les habitants ont été interdits à la consommation de cette eau. Toutefois, il demande aux bienfaiteurs de venir en aide à cette population, car depuis lors, ils sont obligés de parcourir plus de 8 kilomètres pour s'approvisionner en eau potable.
Chaque jour, plus de 200 réfugiés burundais du camp de Lucinda en RDC sont testés positifs au paludisme. La peur s'installe au sein des réfugiés. Ils craignent que cette maladie soit une épidémie. Les réfugiés demandent une intervention d'urgence des organisations œuvrant dans le domaine de la santé. Un des réfugiés témoigne.
Il fait vrai depuis les deux dernières semaines du mois de septembre dernier, le paludisme est devenu comme une épidémie dans le camp de Lucinda et aux alentours, donc dans la communauté d'accueil. Les logiques qui nous ont été données par le centre de santé de Lucinda est confirmé même au poste de santé du camp de Lucinda. Au moins, 18 malades sont accueillis, sont testés positifs chaque jour au poste de santé de Lucinda. Et au centre de santé de Lucinda, qui accueille les réfugiés et les Congolais, donc le centre de transfert pour ces 10 cas de Lucinda, on accueille plus de 350 patients, donc malades du paludisme par jour. Les signes culturels au centre de santé, au centre de santé de Lucinda, confirment que la malaria est devenue comme une épidémie dans ces derniers jours. Et cette autorité se demande pourquoi il y a une épidémie, alors que selon les enquêtes menées par ce centre de santé, bon nombre de personnes ont des maux de cœur. Il y en a qu'il y a une année qu'il n'y a pas de distribution de maux de cœur. Et que tu demandes, est-ce que ce sont les maux de cœur qui ont déjà expiré, il a déjà contacté la zone de santé de Mundu pour que le médecin chef de zone puisse déclarer une épidémie de malaria puisque ces chiffres sont effrayants.
La radio Inzamba n'a pas pu joindre les responsables du camp de Lucinda sur ce sujet. C'est la fin de cette rétro de l'actualité de la semaine qui s'écoule. Merci de nous rester fidèles. Prochain rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien.
Nzamba.
Nzambi la samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.